les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7 et les chemins de traverse. Nous aurions dû avoir un petit quart d'heure pour être 20, nous avons eu un petit souci technique avec nos auditeurs, hein, Caroline et Sylvain Maigne-Neveu, qui sont de Vic-sur-Gartempe, pardon, et on avait un petit souci de communication, c'était pas bien grave, on en parlera tout à l'heure, hein, c'est concernant l'exposition qui va se dérouler, et qui se déroule d'ailleurs déjà à présent à Poitiers, au musée Sainte-Croix. Je ne sais pas si notre invité du jour, Elisabeth Morin-Chartier, est déjà allée voir cette exposition.
La musée.
Vous êtes allée?
Oui. Tout à fait.
Ah oui,
formidable.
Une belle exposition.
Oui. Et une belle idée surtout.
Oui, tout à fait. Oui.
Vous savez, il y a beaucoup de femmes artistes. Mm-hmm. Et de tous les temps, les femmes artistes n'ont pas du tout eu l'aura qu'elles auraient mérité avoir. Et bien évidemment, un exemple typique au musée de Poitiers, c'est Camille Claudel. Camille Claudel a toujours été dans l'ombre de son frère, Paul Claudel, et de son maître, Auguste Rodin. Mm-hmm. Mais cette femme est éblouissante dans sa perfection de l'art. Et je trouve que je n'ai pas spécialement envie ce matin de citer les Américains comme modèle, mais je voudrais dire quand même que quand on va aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui des musées spécialement consacrés à l'art des femmes, et des musées qui sont absolument passionnants. Et on a en France, en Europe aussi, de très belles artistes à promouvoir. Exactement. Donc la musée, allez voir la musée.
Exactement, avec des mécènes, on peut le dire aussi, puisque c'est Eugénie Dubreuil qui a offert cette exposition, ses œuvres, au musée Sainte-Croix.
Bien sûr.
Voilà, et qui sera là d'ailleurs le 24, enfin là, à Poitiers en tout cas, le jeudi 24, qui sera accueilli d'ailleurs par l'association donc, sur la commune de Paris, qui l'a invité donc, pour venir parler de son exposition le 24. Vous pouvez vous rendre hein, au musée Sainte-Croix sans souci. Je remercie hein, nos deux auditeurs, hein, Caroline et Sylvain Maigne-Neveu, qui devait nous parler au téléphone tout à l'heure. Ça n'a pas pu se faire malheureusement. Ce n'est pas très grave, entre guillemets, puisque nous en parlons brillamment aussi avec Elisabeth Morin-Chartier. Par contre, pour vous dire que nous les recevrons quand même en direct, hein, nos deux auditeurs prochainement, pour parler justement de la Commune de Paris. On va faire une émission spéciale sur la Commune de Paris, une grande histoire, ça, 1871 Paris. Voilà pour l'actualité à venir. Aujourd'hui, on est là pour parler d'Europe.
Et avec Europe, plaisir.
Et il y a beaucoup de choses à dire actuellement sur l'Europe, hein, beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'on va parler de guerre économique ou d'économie de guerre? Ça, c'est un peu différent. Les deux sont sur la table. Vous êtes, vous, Elisabeth, très proche, hein, je crois, d'Ursula von der Meyer, qui est la présidente de la Commission européenne. Quelle est l'ambiance actuellement au niveau de cette commission?
L'ambiance à la Commission européenne est extrêmement concentrée, active et sage en même temps. On a vu que dans cette énorme déstabilisation mondiale qui vient de se produire ces deux derniers mois, consécutivement à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, il y a eu de grands bouleversements. Et ces grands bouleversements, qui sont des bouleversements démocratique et des bouleversements économiques et des bouleversements politiques ont entraîné une très grande fièvre dans tous les pays au niveau mondial. Donc, je te réponds à des droits de douane insensés par d'autres droits de douane insensés. Et donc, s'en est suivi une espèce d'escalade. On voit bien que là-dedans, il y a beaucoup de provocations, il y a beaucoup de jeux politiques, de jeux économiques, d'intimidation. Et puis, finalement, l'Europe se montre d'une extrême sagesse.
Ah, vous n'avez pas bien le contraire, puisque vous êtes au Parlement européen.
Alors, je ne suis plus au Parlement européen, je suis à la Commission européenne, membre du comité d'éthique. Mais l'Europe se montre d'une grande sagesse parce que la Banque Centrale Européenne est très sage et aujourd'hui, du moins exactement hier, et hier, Donald Trump a dit qu'il voudrait bien que la Banque Centrale Américaine, donc la Fed, s'aligne sur la Banque Centrale Européenne. Ah,
une belle chose.
Eh, les choses changent. Et vous voyez, dans ces moments extrêmement électriques, c'est toujours très, très dangereux de se précipiter.
Exactement. C'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement de ce côté-là. Ouais.
Et la sagesse, pour l'instant, européenne, est la position qui s'impose. Et je crois qu'on ne gagne rien à remettre de l'huile sur le feu et à nourrir cette espèce d'anxiété, d'escalade mondiale. Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas préparé pour autant.
D'accord. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour l'instant, on le voit. Alors moi, j'écoutais de jour une émission, c'est Jacques Attali, qui était un proche de François Mitterrand à l'époque,
oui,
qui déclarait que d'ici 20 ans, il ne serait pas étonné que l'Europe arrive première puissance mondiale véritablement, vu ce qui se passe actuellement. Vous êtes peu d'accord sur ce...
Et je ne suis pas un peu d'accord avec Jacques Attali. Je suis complètement d'accord.
Ouais.
Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes le groupe beaucoup plus important, 450 millions d'habitants par rapport aux États-Unis. Nous avons une monnaie, l'euro, qui s'impose actuellement. Le dollar fléchit, le yen ne va pas bien. Hein. Donc, vous voyez, dans les grandes monnaies mondiales, l'euro s'est imposé comme monnaie de référence. Ah, mais ça, l'euro, c'est l'Europe.
Tout à fait.
Hein? Donc, permettez-moi quand même de le soutenir, parce que nous avons une monnaie forte, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas ces dévaluations. On a une solidité. Et grâce à la Banque Centrale Européenne, dont la responsable est une Française, tout à fait pertinente, de très grande expérience, de très grande intelligence, qui s'appelle Christine Lagarde.
Une grande dame, tout à fait. Oui.
Une très grande dame. Et donc, cette grande dame veille sur nous, veille sur notre monnaie. Et aujourd'hui, moi je vois bien les Américains aujourd'hui. Hein, Wall Street s'effondre, ils perdent sur leur retraite, ils perdent sur leur salaire, les prix augmentent, ils tombent en difficulté financière.
Et le risque, justement, c'est en tombant en difficulté, c'est que nous, on aura peut-être une économie assez forte pour le moment. Est-ce qu'au niveau, par contre, de la défense, c'est le même cas? Parce que lorsqu'un pays a un souci, il est plutôt va-t-en-guerre, il serait tenté d'aller voir ce qui se passe ailleurs. On a pu le voir à l'époque en 40 avec la crise économique qui a emmené la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce côté-là? On le voit avec les puissances actuellement qui sont l'une en face de l'autre. La Russie, bien sûr, les États-Unis, la Chine, on l'oublie, mais ils sont derrière la Russie. Donc
oui,
tous ces gens-là, risquent-ils pas de nous...
Alors, si je peux me permettre, vous me faites rire quand vous dites « on voit ces pays qui sont les uns en face des autres ». Eh bien, bien malin aujourd'hui, qui peut dire qu'un tel est en face d'un tel? Je vois aujourd'hui qu'il y a autant de déstabilisation dans les relations diplomatiques que dans les relations économiques. Et donc, les alliés d'autrefois ne sont pas forcément les alliés d'aujourd'hui.
Exactement. Par contre, le terrain de guerre peut être le même, puisque je vois mal des grandes armées aller faire la guerre en Afrique. Ce serait plutôt l'Europe. C'est la crainte un peu aujourd'hui des Français et des Européens.
De toute façon, les terrains de guerre, comme vous dites, on n'est plus à l'époque de Verdun. On n'est plus à cette époque-là. La guerre se fait de multiples façons, en même temps. Oui, il faut avoir des forces de dissuasion. Mais regardez ce qui s'est passé dès qu'on a eu cette déstabilisation au niveau international. La Grande-Bretagne s'est rapprochée de l'Europe qu'elle avait quittée il y a tout juste quelques années. Le Canada se rapproche de l'Europe. L'Australie, qui n'est pas notre voisin le plus proche, se rapproche de l'Europe. Le Groenland, il revendique son indépendance. Donc, vous savez, c'est des choses que vous n'imaginiez pas. Moi, vous m'auriez demandé ça il y a un an. Je vous disais non, mais vous rêvez.
C'est vrai qu'on ne s'imaginait pas cette situation et les risques encourus aujourd'hui. C'est d'où la crainte, hein, les gens sont mal informés. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que vous veniez ici pour nous expliquer tout cela.
Oui,
en fait, hein.
Tout à fait. Regardez comme aujourd'hui, par exemple, Tiens, je vais vous prendre un sujet sensible. Les grands accords internationaux, économiques internationaux, entre l'Europe et des pays autres, des pays tiers. Il y a un accord très important entre l'Europe et le Canada, qui s'appelle le CETA, qui est un accord économique. Il y a le Mercosur, dont tout le monde a entendu parler.
Avec l'Amérique du Sud.
Avec l'Amérique du Sud, et qui a entraîné beaucoup de vagues, on va dire, beaucoup de contestations. Oui, eh ben, je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, ces accords-là, ils sont extrêmement nécessaires et importants pour faire contrepoids à la politique économique américaine.
Oui, puisqu'on voit qu'on arrive à le faire fléchir quand même, ce brave monsieur, dans pas mal de domaines.
Exactement.
Enfin, le faire fléchir, je ne sais pas, mais faire changer d'idée.
Alors, il ne rêve que d'une chose, ce monsieur dont vous parlez, qui s'appelle Donald Trump. Donald Trump déteste le multilatéralisme. Il n'aime pas les coalitions. Il ne cherche qu'une chose, c'est à faire éclater l'organisation européenne et à traiter avec Madame Meloni ou telle ou peut-être bien Viktor Orban, etc. Bon, on peut en faire la liste.
C'est deux plus grands alliés, en tout cas actuellement.
Ouais, vous savez, les amis d'un jour ne sont pas les amis de toujours. Hein. Donc, on ne va pas se laisser prendre à ce petit jeu. Donc, il rêve de faire éclater l'Europe. Eh ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de sagesse en Europe. Giorgia Meloni est très largement adossée à quelqu'un que je connais très bien, qui est son ministre des Affaires étrangères, qui est Antonio Tajani, avec lequel j'ai travaillé pendant de longues années en grande proximité, puisque j'étais son premier questeur et il était président du Parlement européen à ce moment-là. Vous savez, elle a mis beaucoup d'eau dans son vin et l'Europe ne passera pas par Giorgia Meloni pour traiter avec Trump. L'Europe, c'est vraiment Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Et il y a une organisation, et l'organisation est solide.
Ursula von der Leyen, que vous croisez régulièrement, qui est lorsque vous allez à Bruxelles.
Ben bien sûr, mais je l'ai croisée quand j'étais au Parlement. Je la recroise maintenant à la Commission européenne. L'unité dans laquelle je travaille est juste à l'étage du dessous. Mmh. Vous savez, l'Europe, elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle travaille beaucoup et avec beaucoup de pertinence. L'avenir n'est jamais écrit, mais au niveau européen, on est tous extrêmement mobilisés sur les indicateurs extrêmement importants, l'indicateur politique, l'indicateur économique, les indicateurs sociaux. Tout ce qui concerne la défense. Le premier indicateur, c'est la démocratie.
Tout à fait.
C'est la démocratie. Et qu'est-ce que l'Europe nous apporte comme protection pour la démocratie? Pourquoi une dizaine de pays nous ont rejoints après le traité de Nice pour la démocratie? C'était des pays qui avaient vécu sous le joug de l'Union soviétique, et qui ont voulu retrouver la démocratie. Or, la démocratie, aujourd'hui, elle est en danger. Elle est en danger aux États-Unis, elle est en danger ailleurs.
Oui, on le voit même en France aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de politique, hein, mais en France, où on le voit, où on a des attaques sur les réseaux sociaux qui essaient justement de faire passer des choses qui sont des faits, tout simplement.
Totalement raison, bien sûr. Les fakes qui viennent de l'étranger.
Exactement,
oui. Et qui viennent s'immiscer dans la politique intérieure française. Donc vous savez, moi je suis très européenne, mais je sais qu'à un moment donné aussi, je suis éminemment française et je n'aime pas que des puissances étrangères viennent s'ingérer dans nos choix politique même, notre assise démocratique.
Exactement. C'est assez compliqué parce que les réseaux sociaux dont je parlais, c'est les GAFA, hein, c'est l'Amérique, c'est les
Chinois. Eh oui, c'est pas nos copains, hein, parce qu'on les taxe. Évidemment, si vous voulez.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la démocratie, c'est quand même eux qui aident à faire que les FEC soient envoyés en France et que, qu'on déstabilise notre pays, en fait. Hein. Les États-Unis, la Chine, la Russie, on le voit actuellement. Donc, parler aujourd'hui de souveraineté, c'est un peu compliqué quand on voit qu'on n'a pas les moyens d'être en face, d'avoir des réseaux sociaux ou autres véritablement français avec une structure nationale ou européenne.
Oui, j'y crois plus aux structures nationales, je crois plutôt aux structures européennes, bien sûr, parce qu'il faut quand même de la surface pour pouvoir résister à ces GAFA. Ces GAFA, ben oui, d'ailleurs, regardez quels sont ceux qui entourent Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis.
Hein. Oui, c'est ça.
C'est les gens de la tech. Et les gens de la tech sont ceux qui aujourd'hui commencent à dire ben on s'est peut-être un peu trompé parce que il y a des effets pervers des politiques menées aux États-Unis qui les touche en premier.
Alors, on le voit avec Elon Musk notamment, hein, économiquement, c'est vrai que la Tesla semble avoir du plomb dans l'aile. Alors pour celles et ceux qui l'ignoraient, hein, les GAFA, ce sont Google, hein, c'est Apple, c'est Facebook, c'est d'autres encore comme Amazon, hein, tous ces gros de la technologie qui sont essentiellement américains. On a quelques Chinois, mais c'est pas non plus l'essentiel.
Oui, il y a des Chinois, il y a des Chinois. Bon, je vais pas les nommer. Hein.
Non, tout à fait. Non,
et mais puis évidemment, il y a...
Mais c'est vrai que de ce côté-là, on peut se dire que l'Europe est un peu faible. On a eu des moteurs de recherche, des Kant et compagnie, des choses comme ça. Mais
L'Europe s'est déjà bien défendue, hein, parce qu'elle a traité les GAFA, elle leur a donné des règles.
Oui, voilà, elle leur donne des
règles. Ça les déstabilise. Hein,
je me dis souvent
parce qu'ils n'avaient pas prévu ça.
Exactement, mais je me dis souvent, si jamais justement ces GAFA décidaient un jour comme ça de couper le robinet, on est quand même dans la mouise quelque part, parce qu'on n'a plus rien. 24 heures sans Google, sans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on devient? Puisque tout aujourd'hui est géré par rapport à ça. L'informatique aujourd'hui passe par, en tout cas, c'est gros là.
Je pense que dans un pays démocratique comme la France, l'essentiel, c'est que les citoyens ne soient pas des moutons ou des veaux, comme le disait le général de Gaulle, pour reprendre. Mais que ce soit des gens, des citoyens intelligents qui prennent la distance et qui est l'analyse pertinente vis-à-vis des informations qui arrivent.
Oui, est-ce vraiment le cas actuellement? J'ai plus l'impression que quelquefois on a une bande de crétins lobotomisés dans certains domaines.
Hein. Quand quand je vois la presse que nous avons...
Oui, tout à fait.
Je dis respect.
Bien sûr.
Je dis respect.
Je parle de l'autre qui se prétend presse et qui n'est pas presse, qui est rumeur sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je parle de ça en fait.
Mais vous voyez, je m'intéresse plus au travail respectable des journalistes. Et là, quand on voit ce qui se passe dans des pays où finalement ce sont des dictatures, quand c'est le pouvoir politique qui prétend, parce que c'est l'hyperconcentration, elle peut arriver à ça, hein, quand c'est le pouvoir politique qui se prétend prendre la main sur l'éducation, la recherche et la presse, je dis, nous ne sommes plus en démocratie.
Exactement. Mais écoutez, ce que je vous propose, on va faire une petite pause musicale. On parlait tout à l'heure de l'exposition au musée Sainte-Croix. On parlait de l'association qui invite Eugénie Dubreuil à venir à Poitiers donc la semaine prochaine. Cette association, ce sont les amis de la Commune de Paris. On va s'écouter une chanson, vous la connaissez certainement. Hein, c'est Jean Ferrat qui chantait à l'époque La Commune.
Ah, bien sûr.
En 1971, pour fêter les 100 ans de cette commune. Un peuple qui oublie son histoire, c'est un peu un peuple justement qui est perdu. On va justement parler dans quelques temps de cette commune de Paris, puis d'autres choses. On essaiera de faire d'autres émissions dans ce domaine, avec notamment Isabelle Soulard aussi, hein, qui est une historienne que vous connaissez certainement, que j'ai rencontrée cette semaine d'ailleurs au sujet du triangle d'or historique, hein, qui est en train de prendre forme avec l'impulsion du département de la Vienne. On s'écoute Jean Ferrat, La Commune, et on revient tout de suite après.
Il y a 100 ans, commune, comme un espoir mis en chantier. Il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles. C'étaient des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, comme un, comme une, comme artisan et ouvrier, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un, comme une, comme ouvrier et artisan, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'étaient des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, comme un, comme une, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un, comme une étoile au firmament, ils s'éteignaient pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
Et voilà, c'était donc Jean Ferrat avec la Commune en 1871, Paris. C'est un Elisabeth Morin-Chartier. Bon, nous sommes ensemble que pour parler d'Europe. C'est une période de notre histoire qui vous intéresse, ça, la Commune. Et puis je pense que généralement, l'histoire de France est quelque chose qui doit vous intéresser quand on connaît votre amour pour le patrimoine.
Encore plus que l'histoire de France, mais aussi l'histoire du monde en général.
Hein. Oui, c'est vrai que la France, après tout, ce n'est qu'1% de c'est notre histoire à nous.
Mais c'est vrai que... c'est notre histoire à nous, mais elle a des interférences avec les autres.
Tout à fait, ouais.
Regardez comment l'Europe est issue de toutes ces interférences, de toutes ces guerres qui ont opposé l'Allemagne, la France, puis qui sont devenues des guerres mondiales. Donc on ne vit pas sur une île, hein. On n'est pas complètement isolé, on est interdépendant. Et ça a été toute l'histoire, et l'histoire d'interdépendance. Hein. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire grecque de l'Antiquité. Les Grecs de l'Antiquité, quand ils étaient attaqués par les Perses, par Xerxès, qui passait le pont Euxin, comme à ce moment-là, pour envahir la Grèce, ou Darius, eh bien, c'était l'union des cités grecques. Hein? Donc, c'est de l'interdépendance, toujours. Mais moi, j'adore l'histoire, et j'adore toutes les périodes de l'histoire, j'adore le patrimoine, mais tout ça parce que ce sont des signes, des signaux qu'il nous faut connaître pour aussi décoder notre actualité. Ça fait partie de la construction des savoirs et de la compréhension de ce qui nous arrive aujourd'hui.
Tout à fait. Les guerres sont souvent liées à l'économie, on le voit. Alors, on est souvent étonné, hein, quand on est de mon côté, moi, du côté du petit peuple, hein, de bas étage, entre guillemets, bien évidemment. Je vous vois faire de grands yeux.
Oui. Moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé, justement, sur l'histoire sociale. Et cette histoire sociale, elle nous dit beaucoup de choses.
Exactement. Et quand je vous dis donc que les guerres viennent souvent du côté économique, on est étonné, hein, de voir aujourd'hui les milliards qui sont brassés. Je voyais il y a quelque temps, on nous parlait de 109 milliards pour l'intelligence artificielle, 800 milliards pour la guerre, l'économie de guerre. La question qu'on se pose, c'est d'où vient cet argent, parce qu'il faut bien le trouver quelque part. Et est-ce une chance pour notre économie en même temps? Parce que 800 milliards, c'est pas 800 milliards jetés en l'air, c'est 800 milliards qui vont forcément retomber quelque part.
Alors, bien sûr, vous parlez très exactement de ces 800 milliards, ce sont des 800 milliards que l'Europe flèche sur les industries de défense. Eh bien, il faut que vous pensiez que développer des industries de défense, ça veut dire développer de la recherche, donc des chercheurs, des postes de chercheurs, développer de la production, développer des transformations d'entreprises. Et ça, nous avons des grandes entreprises en France qui ont besoin de se transformer. Vous savez, on ne produit pas toujours la même chose et on ne fait pas une vie de profit économique, de stabilité d'emploi sur des dizaines et des dizaines d'années. Tout change. Et donc, il y a même d'autres fonds européens, je pense au fonds d'ajustement à la mondialisation, par exemple, qui sont là pour soutenir le changement des entreprises, la modernisation, l'actualisation. Et nos enfants, et nos petits-enfants, est-ce qu'ils vont faire la même chose que nous, ou la même chose que nos parents? Est-ce que nous faisons la même chose que nos parents? Non, on est dans ce grand mouvement perpétuel. Et ce grand mouvement perpétuel, c'est sûr qu'on vous affiche des milliards, mais c'est qu'il faut l'accompagner, il faut le stimuler. Donc c'est de la formation, c'est de l'équipement, c'est de la recherche, et tout cela met la France en mouvement, met l'Europe en mouvement, et nous permet d'anticiper toutes ces évolutions. Et
tout ça, c'est une Europe indépendante ou parce que 800 milliards, oui, mais si je dépense mes 800 milliards aux États-Unis, il y a peu d'intérêt.
Non, mais vous, tranquille, hein. Vous ne faites pas de soucis parce que vous n'avez pas les 800 milliards à vous tout seul.
Je me doute bien, bon. Oui, je me doute bien. Je me dis bien qu'ils sont un peu abstraits pour tout le monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde, par exemple, aujourd'hui l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui est une arme de dissuasion nucléaire. Cette arme de dissuasion nucléaire, aujourd'hui,
comme nous.
Sauf que la nôtre est entretenue par la France, la leur est entretenue par les États-Unis. Si aujourd'hui, voilà, les États-Unis décident de bloquer le robinet, eux n'ont plus rien. Est-ce que c'est pas le risque justement par rapport à une Europe?
Tiens, excellent exemple.
Oui, voilà, tout à fait.
Et vous avez vu ce qu'il a annoncé, le président Trump, hier? Il a dit qu'il allait faire un voyage officiel en Grande-Bretagne auprès du roi Charles dans les mois qui viennent. Mmh. Hein ? Pourquoi il y va ?
Il y a certainement des intérêts.
Eh bien, il y a certainement quelque chose comme ça par derrière. Et vous voyez, il n'a pas trop envie que la Grande-Bretagne, qui a toujours été un élément fort des États-Unis en Europe... et il a certainement envie qu'il ne soit pas trop proche non plus de nous. Quand il a vu le Canada et la Grande-Bretagne se rapprocher de l'Europe, comprenez qu'il a quand même... il voit un petit peu les choses se tisser.
C'est ça, tout à fait.
Bon. Oui. Donc, il veut aller y voir de plus près.
Vous y croyez véritablement, vous, dans les années à venir, cette dissension, cet éloignement des États-Unis par rapport à l'Europe, puis par rapport aux autres pays du monde, que ce soit l'Australie, on en a parlé, que ce soit le Canada, par exemple, qu'ils ont...
Non, mais certainement que ce qu'on appelle l'ordre mondial va évoluer. Regardez, est-ce que les pays du Commonwealth vont rester à ce point soudés ensemble? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions qui vont s'adapter à la mondialisation? Bon, très certainement, il va y avoir des évolutions dans ce sens-là. Est-ce que d'autres organisations internationales vont émerger? Oui, je le crois. Mais dans ce nouvel ordre mondial, qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui nous assure? Qu'est-ce qui nous protège? L'Europe et sa monnaie.
En espérant que ça dure. Au niveau européen, on en parlait donc de financement 800 milliards pour la défense européenne. Une armée européenne, on peut y croire, ou une série d'armées, en fait. Hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que si les Américains quittaient l'Ukraine, alors ils ne sont peut-être pas prêts à le faire, hein, puisqu'il y a des terres rares et autres, ils ont quelque intérêt à rester. Mais si les Américains quittaient tout de même, l'Europe peut-elle se défendre toute seule face à la Russie? Et quelle serait la position, d'ailleurs, de l'Europe en Ukraine?
On n'est plus à l'heure des armées napoléoniennes. Hein. On n'aligne pas les soldats. Bon. Alors, certes, il y a des forces terrestres, il y a du matériel, il y a de l'immatériel, et il y a de la négociation économique en même temps. Tout s'entrecroise. Donc, la guerre, aujourd'hui, elle est multiforme. Hein, et donc, il s'agit d'avoir toujours de la monnaie dans ses poches. Toujours. Mm-hmm. Pour pouvoir traiter. Parce qu'il faut être fort. Et finalement, c'est quand vous avez des leviers de négociation que vous êtes fort. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en matière de négociation, toujours, toujours, celui qui gagne, c'est pas celui qui se précipite. Il faut prendre son temps. Et celui qui gagne, c'est celui qui se donne le temps.
C'est celui aussi qui est souverain quelque part, parce que c'est bien beau de vouloir faire la guerre ou non aux autres, ou se défendre, il faut pour ça avoir les moyens de le faire. Aujourd'hui, alors, restons franco-français, hein, avec une dette de plus de 3 000 milliards, est-ce qu'il est facile pour nous d'envisager nous défendre véritablement? Alors, on a une bombe nucléaire, on a tout ce qu'on veut autour, mais à côté de ça, on a très peu de moyens.
On n'a pas de marge. On n'a pas de marge. Donc, ça veut dire qu'il faut se mettre la ceinture sur certains points, si on veut pouvoir donner un coup de collier et renforcer d'autres secteurs. Mais, entre nous soit dit, les États-Unis sont en grande difficulté économique parce qu'ils ont une dette extrêmement importante aussi. Regardez le Japon dont on a parlé pendant un temps comme un pays extrêmement vigoureux sur le plan économique, aujourd'hui est vraiment handicapé par la faiblesse de sa monnaie. Regardez aujourd'hui comment les Chinois investissent de par le monde. Donc, tout ça, il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Il y a 40 ans, c'était pas comme ça. Et dans 20 ans, ça sera pas comme c'est aujourd'hui.
Voilà. Et vous parlez
donc,
des Chinois,
il faut être agile. Exactement. Agile.
Vous parlez des Chinois et d'agilité, justement, de ce côté-là, on peut leur dire bravo, parce qu'on les entend très peu, en fait, hein, dans tous les domaines.
Enfin, on les entend très peu. Là, ils ont quand même. Xi Jinping a quand même frappé un grand coup
pour répondre
aux taxes douanières des États-Unis.
Voilà, mais il n'y a pas de gesticulation, je veux dire, c'est véritablement...
Il
n'y
a pas de gesticulation, c'est... Ah bah, c'est, vous savez, c'est l'organisation du Parti communiste chinois, c'est hop, le chef a dit, tout le monde applique, ah, et on ne discute pas. Mais, mis à part ça, je ne suis pas sûre que la décision prise par la Chine soit la plus porteuse par la suite. On va voir.
Voilà. Sauf que la Chine aujourd'hui n'est pas folle. Les terres rares et autres, ils vont les chercher en Afrique. Nous sommes nous retirés d'Afrique. On a vu d'ailleurs, on parlait de l'armée française. On a vu ce que valait une armée française lorsqu'elle était au Mali, hein, où quelques centaines, quelques milliers peut-être de terroristes nous ont fait quitter le pays. Alors on peut se poser des questions pour la défense de l'Europe justement. Et c'est vrai que la Chine investit pas mal aujourd'hui en Afrique avec les terres rares.
Et elle a déjà investi.
Exactement.
Ouais, elle a déjà investi.
Et on s'aperçoit que l'Europe de ce côté-là est un peu obligée de se retirer.
Ouais. Alors, l'Europe n'a pas investi de la même façon, mais l'Europe investit aussi en Afrique. Hein.
Alors, on y parle de moins en moins le français, d'ailleurs, en Afrique.
Alors, attendez, on ne confond pas la France et l'Europe. L'Europe investit en Afrique, je termine sur ce point, plutôt pour soutenir le développement de l'Afrique qui permette aux Africains de trouver du travail chez eux. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle voit l'Afrique comme un continent à développer pour fixer les populations qui y vivent et qu'ils y vivent de façon décente. Mm-hmm. Bon, parce que les problèmes de migration internationale sont des problèmes qui sont extrêmement difficiles aussi à réguler et... je ne dis pas contrôler, mais à intégrer dans nos politiques. Bon. Donc, l'Europe, c'est ça. La France, en Afrique, je ne dirais pas que ça soit un immense succès.
Ça l'a été pendant un certain temps, après la Seconde Guerre mondiale. Mais
Ça l'a été, mais on n'a pas su faire la décolonisation. Bon. Donc, depuis ce temps-là, on est... Et puis, le terrain africain a été l'objet de l'arrivée de groupes terroristes et a mis la France en difficulté. Donc, on avait un siège très branlant en Afrique.
Exactement, et c'est pas prêt de s'améliorer, on se retire petit à petit. Alors on a encore,
c'est pas prêt de s'améliorer.
On a encore l'Afrique du Nord, entre guillemets, à quelques contacts, quelques rapports avec l'Algérie, avec le Maroc.
Des contacts diplomatiques, pas diplomatiques.
Exactement, on voilà. Le voit actuellement avec Bruno Retailleau, hein, qui cherchait à à envoyer les OQTF chez eux, mais c'est vrai qu'il y a toujours une relation un peu spéciale entre la France, on va dire. Alors, l'Europe, je sais pas, elle est peut-être moins présente en Afrique à l'époque, mais la France, en tout cas, par rapport à l'Afrique du Nord. Mais par contre, c'est cette Afrique du Nord qui nous permet aujourd'hui, quelque part, d'avoir encore quelques moyens de production, avec des matières premières qui nous arrivent d'Afrique du Nord et d'Afrique en général. De ce côté-là, est-ce que la politique de France européenne, on va dire, puisqu'on parlait plus d'Europe que de France, n'est pas un peu, quelque part, angélique? C'est-à-dire qu'on essaie de sauver les populations, les garder chez elles. Est-ce que l'idée, ce ne serait pas non plus, en les gardant chez elles, de permettre que nous ayons, quelque part, un retour, comme savent si bien le faire les Américains avec les terres rares en Ukraine, par exemple? Aller les défendre à une condition.
C'est pas la culture européenne de faire du marchandage, en fait. Hein. C'est que on est tous interdépendants. Donc, vous pouvez pas dire « je te donne ça, mais je te prends ça », etc. Ça, c'est... je sais pas ce que vous appelez l'angélisme. Hein. Mais finalement, intégrer des gens ou piquer des chercheurs... c'est pas non plus des choses qui ne coûtent rien. Hein? Déplacer des gens, c'est pas non plus des politiques qui sont porteuses d'avenir. Bon, et regardez aujourd'hui, comme par exemple le problème des Vénézuéliens aux États-Unis, où on leur a promis un statut protégé de migrants et aujourd'hui on les renvoie. Bon, ben, vous voyez, à la faveur d'un changement démocratique, on change de position politique vis-à-vis des pays. Ça, c'est pas quelque chose qui est viable dans une organisation mondiale. Il faut des chefs qui soient des gens stables, des régimes stables, et on tourneboule pas avec le premier vent venu pour changer de politique et passer vraiment de l'extrême intégration à je vide et je renvoie. Non. C'est pas comme ça se passe.
Sinon, on arrive forcément aux rancœurs à un moment ou à un autre de la part de
bien sûr, peuple. Bien sûr. Et regardez Angela Merkel. Cette femme, elle avait très très bien compris en 2015 qu'il fallait que l'Allemagne ouvre ses portes.
800 000 migrants, je crois, à l'époque.
Hein. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que la démographie allemande pèse contre le développement de l'Allemagne. Donc, il faut bien intégrer des populations étrangères qui le souhaitent pour pouvoir continuer ce développement économique. Bon, ça n'a pas été tout à fait compris.
Sauf que 800 000 personnes d'un seul coup, c'est quand même énorme sur en arrivée massive. Les intégrer, c'est très compliqué. On le voit aujourd'hui, même en France, où le nombre n'est peut-être pas aussi important, mais quand même pas non plus anecdotique.
Non, mais vous avez des pays comme la Pologne, comme et les États-Unis d'ailleurs, dites-moi donc. Souvenez-vous, comment ils se sont développés, eux?
Ah, tout à fait, oui. Eux, hein? En massacrant les populations locales à l'origine.
Oui, d'accord. Mais surtout, en accueillant des bateaux et des bateaux et des bateaux de migrants.
Ah, bien sûr, tout à fait. Hein? Nous étions d'ailleurs, nous, au chiffre européen.
Donc, migrants, beaucoup d'Européens. Tout à fait. Oui. Vous savez quelle est la plus grande ville italienne au monde?
Vous allez me le dire, elle est aux États-Unis?
New York.
New York, d'accord.
Voilà. Donc, et y en a d'autres comme ça. Et quand vous parlez du quartier chinois à Londres, si vous voyez la rue en Grande-Bretagne à Londres aujourd'hui, la rue, elle est extrêmement bigarrée. Des Indiens, des Indonésiens, des Chinois. Oui, y a, c'est pas uniquement des Anglais nés dans le Devon. Hein.
Exactement. On parlait donc de rancœur, hein, quelquefois, lorsque l'on va chasser les populations immigrées, hein, les renvoyer chez elles, les rancœurs. On les a connus il y a quelques temps, malheureusement, en 2001, avec ce qui s'était passé à l'époque aux États-Unis. On va faire une dernière pause musicale, hein, par rapport à cela. Et on va écouter, tiens, Manhattan Caboose, c'était la chanson à l'époque d'Axel Red et de Renaud. On revient tout de suite après.
mon building tout de verre et d'acier. Je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre. Jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam des tyrans.
Cela n'était jamais ni le Coran.
Suis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. La chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Nous sommes toujours sur ROC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie d'Elisabeth Morin-Chartier, donc pour parler d'Europe, mais pas que. On parlait, tiens, hors antenne, des États-Unis. J'ai oublié de poser la question tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle, nous, de notre côté européen. La situation américaine est ce qu'elle est. Le ressenti actuellement, d'après vous, du peuple américain par rapport à la situation, ils sont derrière le chef, le doigt sur la couture, ou ils commencent à s'inquiéter?
Je sens des petites fissures qui se trament. Y compris dans l'électorat de Donald Trump.
Oui, c'est ça, avec l'inflation.
Parce que, en fait, l'inflation, et son premier cercle, c'est les géants des nouvelles technologies. Mais ce sont les premiers à avoir subi la chute de la bourse. Mm-hmm. Donc, les conséquences de la politique sur l'économie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand même, les Américains, ils sont tous sauf sots. Et les fissures démocratiques, la puissance du politique sur le judiciaire, par exemple, ou regardez ce qui se passe en ce moment où on coupe où Donald Trump coupe les fonds à Harvard. Parce que les chercheurs.
Tout à fait. Là, on parle de milliards qui ont été coupés. Hein.
Mais bien sûr. Donc, si vous voulez, vous croyez que la France, avec sa tradition démocratique, maintenant solidement ancrée, j'espère, se mêlerait de couper les fonds du CNRS, supprimer les postes de chercheurs, supprimer l'Institut Pasteur. Attendez, nous vivons sur une société qui a besoin d'être d'étayer son avenir par la recherche. Regardez en ce qui concerne les maladies, la recherche sur le cancer, combien c'est très important. Regardez en ce moment les recherches, comment elles évoluent sur les maladies neurodégénératives, la Parkinson, etc. Avec le vieillissement de la population, grâce à une meilleure santé, des meilleurs soins, eh bien, nous entraîne aussi à devoir soutenir des recherches nouvelles. Exactement. Constamment nouvelles. Regardez les cancers chez les enfants, les cancers pédiatriques. Tout ça, il faut soutenir la recherche. Donc on ne coupe pas la recherche. On ne coupe pas les fonds des universités. Et on n'attaque pas Harvard, Columbia, Yale et compagnie.
Et on n'attaque pas non plus peut-être les femmes aussi, comme on le voit actuellement sur le retour au niveau de l'avortement, par exemple, et bien d'autres causes encore aux États-Unis.
L'égalité des citoyens, les droits des femmes, c'est ce qu'on appelle, c'est tous les éléments, les morceaux de puzzle qui constituent la démocratie.
Exactement.
Ça s'appelle la démocratie.
Tout à fait. Et on recevra d'ailleurs, j'en parlais, puisqu'on recevra d'ici quelques temps, Laurence Valois-Rouet, que vous connaissez certainement.
Bien sûr.
Et Isabelle Soulard, donc pour parler du droit des femmes, l'évolution du droit des femmes et de cette histoire dans cette émission.
Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé sur le droit des femmes chez Homère. Mmh. Hein 8e siècle avant Jésus-Christ. Et dans la société d'Homère, les femmes sont extrêmement libres. Pénélope n'est pas celle qui fait de la tapisserie. Pénélope, elle fait de la tapisserie pour tromper tous les prétendants, mais c'est elle qui gouverne. Et c'est elle qui dirige.
C'est souvent le cas d'ailleurs à la maison là aussi.
Ah tiens, ça vous évoque quelque chose.
Un petit clin d'œil à mon épouse qui doit nous écouter actuellement.
Et après, dans la Grèce du classique, quelques siècles plus tard, les femmes se sont fait renfermer au gynécée. Elles avaient un quartier dans les maisons dont elles ne sortaient pas. Bon, et au Moyen-Âge, vous avez des femmes qui sont des intellectuelles, des poétesses, qui sont relativement libres. Regardez, Aliénor d'Aquitaine, voilà, un exemple de femme incroyable.
Exactement, hein.
Bon, et puis au XVIIIe siècle, des femmes formidables, qui tenaient des salons de réflexion philosophique, scientifique, etc. Puis le XIXe, hop, boucle à nouveau les femmes à la maison. Bon, il ne faut jamais croire que les droits humains soient définitivement acquis. Il y a des périodes de sécurisation de ces droits humains et la démocratie est la façon de sécuriser les droits humains. Et puis, il y a des périodes de fragilité. Et bien, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a, dans certains points du monde, des démocraties bien établies et dans d'autres, des démocraties très chancelantes.
C'est ça, avec l'économie qui toujours est là pour réguler tout cela un peu, l'économie qui fait souvent que les femmes justement sont renvoyées à la maison pour laisser la place aux hommes. Et c'est vrai que.
Alors là, je peux vous dire, le dernier collègue député européen qui m'a dit ça en commission de l'emploi, s'est fait voler dans les plumes immédiatement par moi-même.
Oui,
les femmes, leur place est à la maison, ça, c'est non.
Et pourtant, vous avez beaucoup de gens encore qui le pensent, malheureusement.
Oui, c'est non. Et c'est pour ça qu'il faut lutter pour l'égal salaire des hommes et des femmes. À compétences égales, à poste égal, les femmes doivent avoir le même salaire que les hommes. Et c'est pour cela que je dis aux femmes, ne lâchez rien. Vous valez autant qu'un homme. Par contre, il faut assouplir le temps de travail des uns et des autres pour que l'homme puisse, comme le père, puisse, comme la mère, emmener des enfants à la crèche, à l'école, aller chercher, etc. Assouplir le temps au travail, mais garder vos carrières. Faites attention à avoir une égalité de carrière par rapport aux hommes et une égalité de salaire. Et c'est si vous ne vous accrochez pas que là, on va vous renvoyer à la maison.
Exactement. Et c'est vrai que l'Europe protège bien quand même les femmes et pas que, hein, les minorités, même autrement.
C'est la dernière directive que j'ai faite au Parlement européen. Ouais. C'est l'égalité des hommes et des femmes à travers la vie professionnelle. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je tiens, parce que c'est un levier démocratique.
À quand une femme présidente, d'après vous, en France ? On a déjà une présidente de Commission européenne, c'est déjà pas mal.
Oui, on a
On a Christine Lagarde.
Vous savez, au niveau européen, les femmes sont très, très présentes. Hein. Moi, dans mon comité d'éthique, nous sommes trois. Nous sommes trois membres.
Ah d'accord.
Un ancien juge de la Cour de justice, qui est finlandais. Un ancien directeur général de la Commission européenne, qui est polonais. Et une femme française. Et moi.
Vous-même.
Nous sommes trois. Bon. Est-ce que la France en tire gloire ? Pas du tout. Mais si vous voulez, au niveau européen... la place des femmes, elle est extrêmement importante. La chef de la diplomatie européenne, c'est une femme, c'est pas un homme.
Hein ? Qui arrive à se faire entendre au milieu de tous ces hommes ? Je pense notamment à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui apparemment a quelques difficultés par rapport à des Donald Trump et autres. Je suis pas certain qu'eux aient envie de la voir.
Non, attendez. Ursula von der Leyen, elle est de la même fibre qu'Angela Merkel. C'est des femmes qui ne font pas de tapage, mais ce sont ce que j'appelle des fortes femmes. Hein ? Vous savez, c'est des Simone Veil. C'est le même tempérament. Et au niveau européen, dites-vous bien une chose. On ne regarde pas si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. On regarde une chose. Est-ce que vous êtes compétent et est-ce que vous savez faire des majorités ? Est-ce que vous savez construire des consensus ?
Mais apparemment, c'est le cas, puisqu'elle est en place depuis 2019, je crois.
Eh bien, c'est sa deuxième présidence de commission.
Voilà, donc on reconnaît sa compétence.
Donc voilà, c'est une femme compétente, c'est une femme travailleuse, et c'est une femme qui sait mener son affaire. Vous pouvez lui faire confiance.
Il y a énormément de travail actuellement, on le dit, donc avec la guerre économique et l'économie de guerre, hein, donc deux thèmes différents. Les 800 milliards donc, qui vont être, alors non pas dépensés, puisque pour l'instant, les 800 milliards, on ne les a pas. Ce sont des crédits qui sont faits au pays, je pense, non ?
Qui sont ouverts, mais vous savez, les politiques européennes sont des politiques pluriannuelles. C'est des budgets qui sont bâtis sur plusieurs années et qui sont, glissants, donc qui... qu'on appelle une politique glissante en termes économiques, c'est que le budget se porte et se conforte d'année en année. L'essentiel, c'est que les objectifs soient clairs aussi.
800 milliards donc, de fonds publics, et puis 109 milliards pour la France hein, de fonds privés concernant l'intelligence artificielle. Votre vision de l'intelligence artificielle aujourd'hui, une crainte par rapport à ce qui...
Non, aucune crainte.
Aucune crainte.
Aucune crainte. J'allais dire même une certaine envie de découvrir quelque chose qui va nous ouvrir aussi les portes d'un monde nouveau dans lequel, regardez, nos enfants, nos petits-enfants sont extrêmement déjà... Nos enfants comme l'apprivoise et nos petits-enfants, ils sont déjà là-dedans. Alors, et d'ailleurs, l'intelligence artificielle, vous pouvez, si vous regardez bien ce que vous faites, vous en bénéficiez déjà.
Oui, tout à fait. Dans le nombre
Mais regardez ce que l'intelligence artificielle peut changer aujourd'hui en matière de découverte de maladies.
Certainement, oui.
Hein ?
Tout à fait.
Bon, Et ben là, vous serez tous concernés. Nous serons tous concernés. Nous sommes tous dans le même bateau. Moi, j'ai hâte.
Ah oui. Par contre, ce qui est inquiétant peut-être, c'est au niveau de tout ce qui est scolarité ou autre. Aujourd'hui, on voit que si je tape trois mots sur un chat pour avoir un texte, on va me faire
taratata.
Un livre. Ah, je vous dis ça.
Non. Alors, écoutez, tous ceux qui ont essayé d'avoir une thèse en reprenant des morceaux de thèse déjà écrites se sont bien fait taper sur les doigts.
Parce qu'on est au début, mais d'ici quelques années, peut-être.
Et on a quelques exemples célèbres. De gens qui ont voulu se faire avoir, hein, décrocher une thèse comme ça. Non. Il y a toujours une valeur ajoutée humaine extrêmement importante. Vous savez, la machine est intelligente si vous lui injectez de l'intelligence. Si vous injectez les bonnes questions, si vous articulez les bonnes questions ensemble, alors là, elle vous nourrit et puis vous allez pouvoir faire votre développement. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'y arriverez pas non plus. Bon. C'est pas de la mathématique.
Exactement. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'être venu parmi nous pour parler d'Europe, mais pas que. On a aussi débordé un peu sur les
femmes. C'est un plaisir.
C'est une très belle chose. On se reverra peut-être prochainement. Il n'y a pas de raison. Hein. Je vous réinviterai. Nicolas Moinet, qui devait venir, l'économiste, a malheureusement été appelé à aller à Toulon au niveau de la Marine nationale. Donc c'était difficile pour lui aujourd'hui. Il reviendra d'ici, je pense, le mois de juin parmi nous. On parlera avec lui aussi d'économie de guerre et de guerre économique. Je vous réinviterai à ce moment-là si vous le souhaitez, sans problème. Vous verrez, on verra par rapport à votre agenda, votre emploi du temps, parce que vous êtes bien, bien, bien occupé. En tout cas, merci. Merci d'être venu.
L'Europe m'occupe beaucoup et heureusement, parce que nous avons besoin d'Europe.
Exactement. Eh bien, je vous remercie. La semaine prochaine, tiens, nous serons un peu plus terre à terre, non, mais un peu plus local, en tout cas, puisque je recevrai Florence Jardin, qui est la présidente de Grand Poitiers, pour venir nous parler de patrimoine, mais pas que. Nous parlerons aussi de transport et puis d'énergie. Voilà, je vous dis belle semaine à toutes et tous. À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait. À la ferme au soleil couchant, dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les mûres en bas, dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison, et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans savoir, on reprenait Mersel Kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifort qui libéraient la French County et en bas dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une guide de Royal Mentor. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous faisaient goûter leurs framboises en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les automnes quand sonne l'heure de nos folies. J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie.
Les enfants cueillent des immortels, des chrysanthèmes, des boutons d'or. Les deuils se ramassent à l'appel en bas, dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts.
Les chemins de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.